RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, RMC Story. Vous savez qu'à 7h06, c'est le coup d'envoi des GG des Grandes Gueules. Et nous sommes ensemble et en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous.
Deux GG avec nous, enfin trois bien sûr, comme tous les jours, mais deux GG habituels. Charles Consigny, avocat, bonjour maître.
Bonjour à tous.
Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste qui est assis à côté de toi. Bonjour Bruno.
Bonjour à toutes et à tous.
Et puis vous savez que quand de temps en temps on a une grande gueule, un intervenant au 32-16 que l'on remarque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien derrière, il atterrit en studio avec nous. Et c'est le cas aujourd'hui d'Aurélie Cousinet, mère de famille, 41 ans, 6 enfants.
Oui, bonjour Olivier, bonjour.
Bonjour Aurélie, dans les Landes.
Oui.
Bienvenue.
Merci.
Et 6 enfants, c'est-à-dire que le réarmement démographique, ça y est, il est enclenché. Elle n'a même pas attendu qu'Emmanuel Macron nous demande de faire des enfants, bravo. Et alors dans les Landes, mais alors les Landes, on en discutait avant, ouais. Intérieur, pas la côte.
Non, dans les Hautes-Landes.
Donc entre les pins.
Dans les terres, ouais.
C'est enfin, là où ça a brûlé.
Non, nous on est en dessous quand même.
D'accord.
En fait, en face de nous, il y a 10 enfants là-bas. À vous deux, vous êtes déjà à 10.
Oui, c'est vrai. Il faudrait commencer peut-être Charles et Bruno. Ancienne militaire de l'armée de l'air.
Ah bravo.
Ça ne rigole pas. Mécanicienne auto.
Oui.
Et un compagnon qui est artisan électricien.
Oui.
Donc là, on est dans la vraie vie.
Oui, c'est
pourquoi,
la vie.
Pourquoi avoir choisi l'armée pendant un temps?
Eh bien, au début, comme certains, on grandit en cité. On n'a pas des parents qui sont là pour nous diriger. Et à un moment, tu te dis, bon, mais ma vie, j'aimerais la prendre en main. J'aimerais avoir un petit peu d'autorité. Et puis, je suis rentrée dans l'armée pour ça.
Pour être cadrée.
Voilà, pour être recadrée, être bien. J'avais 18 ans.
18 ans.
Et du coup, j'ai fait 3 ans parce qu'après, j'ai eu ma première fille. Donc, ça fait que j'ai préféré élever ma fille, l'éduquer, que de continuer dans l'armée, quoi.
Les 6, voilà. C'est à toi ou c'est recomposé?
Les 6, c'est à moi et on est une famille recomposée.
Alors, les amis, Aurélie, pourquoi on l'avait remarqué? Souvenez-vous, un jour, on avait une discussion sur les écrans, les enfants qui sont accros aux ordinateurs, aux portables, aux écrans. Et voilà ce qu'elle disait, Aurélie.
Et moi, je peux vous dire que ça fait le droit. Parce que l'autorité, c'est maman. Alors, qui fait.
Vous savez quoi,
c'est maman qui paye la facture.
Bah oui.
C'est maman qui commande à la maison, c'est pas les enfants. Et les parents qui disent oui, mais je les laisse pour être tranquille. Non, non, non. C'est quoi, tu veux qu'ils te laissent tranquille ou quoi? Il pose le téléphone, il va dehors, il va jouer comme nous on faisait à l'époque avant. Où il prend un livre, il s'instruit. Voilà.
Aurélie. Alors, moi, je veux dire, il faut des Aurélie partout et puis on est tranquille. Hein,
on a tous envie de dire oui, maman. Là. Alors, Aurélie, du coup, dans les GG, ça veut dire que le matin, il y a les couleurs, il y a le salut au drapeau avant que tout le monde prenne le petit déjeuner.
Bon, ils sont grands pour se lever tôt, pour on s'occupe plus des petits, mais voilà, il y a un cadre. Et on fait pas ce qu'on veut, c'est le matin, on se lève, on prend le temps, on se met sur le canapé, ils prennent leur petit déj, voilà, on s'habille, après à l'école, le soir. On arrive de l'école, on prépare les repas, c'est cadré. C'est les heures,
quand
quoi.
On a
8
six
heures.
Enfants,
voilà, 8 heures, on mange.
Tout le monde participe.
Tout le monde participe, c'est la base. Et puis ça leur apprend pour plus tard à se débrouiller.
Ça va de quel âge à quel âge, les 6 enfants?
De 21 à 3 ans.
Alors, oui, et alors, dans ces cas-là, le test, les prénoms.
Les oui, prénoms.
Ah, vas-y, go.
Ah, Enora, Brendan, Luna, Ethan, Emma, Liam.
Voilà, elle n'en a oublié aucun.
Il manque un Jordan.
Allez, de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? Les amis, alors il paraît que les tatouages en entreprise, c'est source de discrimination.
Ah oui.
Ça tombe bien.
Sauf la discrimination des personnes tatouées.
On a un ultra tatoué avec nous dans les GG.
C'est pour ça que t'es venu avec des manches longues, tu peux pas
montrer. Carrément, je vais mettre des moves maintenant.
On reviendra sur le scandale médiatique du moment. Ça vient de Danse avec les stars. Inès Reng face à Natacha Saint-Pierre. C'est clash avec les stars.
La France se déchire.
Et premier sujet de discussion, on va parler de la menace terroriste.
RMC, les grandes gueules.
Oui, parce que on a le Premier ministre qui nous a expliqué pourquoi on était passé en urgence attentat. C'est depuis que l'attentat de Moscou, bien sûr, et puis ce groupe État islamique du Khorasan nous a déjà menacé. Et c'est vrai que cette menace, avec la perspective des Jeux Olympiques, on s'est dit que ça va pas être simple. Écoutez Thibaut de Montbrial, le président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Il est avocat.
Quand vous parlez à tous les gens qui s'occupent de ces sujets et qui franchement sont tous, si vous me permettez cette expression un peu familière, au taquet. Mais en privé, ils reconnaissent tous que la mission va être extrêmement difficile. Tout le monde est très engagé. Et mon souhait le plus cher, parce que ce serait formidable, ce serait même indispensable pour restaurer de la fierté dans notre pays, dans la façon dont les Français se regardent, la façon dont le monde va nous regarder. Ce serait formidable que ça marche. Mais quelle prise de risque !
Et vous dites qu'il est inconscient, Emmanuel Macron ?
Je ne me permettrai pas de dire que le président de la République est inconscient. Ce que je constate juste, c'est que, à ma connaissance, 100% des gens qui lui en ont parlé lui ont dit que ce n'était pas raisonnable et que seul contre tous, il l'a maintenu. Ce sera son succès ou son échec.
Vous êtes d'accord ?
Voilà, alors, il l'a maintenu, c'est, on parle bien sûr de la cérémonie des Jeux Olympiques.
Oui, parce que pour la première fois de l'histoire de l'olympisme, on va organiser cette cérémonie d'ouverture en extérieur, non pas à l'intérieur d'un stade, mais sur un fleuve pendant plusieurs kilomètres vont défiler, ça va durer 2-3 heures, les bateaux avec dessus les athlètes, les délégations. Alors, on a déjà, alors c'est un casse-tête hein, en matière de sécurité, ça n'a jamais été fait, il faut sécuriser les berges, il faut sécuriser également les immeubles tout le long de ce parcours, les abords. On a déjà revu à la baisse la jauge. Au départ, il devait y avoir 600 000 personnes, 600 000 spectateurs. Finalement, c'est 326 000. 100 000 sur les quais bas, et là, c'est payant. Et ensuite, plus de 200 000 sur les quais hauts. Au début, n'importe qui pouvait venir. Et puis maintenant, c'est trié sur le volet, puisque ce sont les collectivités locales, l'État, qui vont attribuer des invitations. C'est ce qui permettra, nous dit-on, de savoir à qui on donne les places et peut-être même de faire des enquêtes de sécurité. Ça m'étonnerait qu'on arrive à faire des enquêtes de sécurité sur 200 000 personnes d'ici juillet. Mais enfin bon, ça permet de filtrer quand même un peu plus. C'est le 26 juillet, cette cérémonie d'ouverture. La menace terroriste est très forte. On ne cesse de nous répété, notamment depuis vendredi, on a même relevé le niveau Vigipirate, hein, c'est maintenant le plus élevé. Est-ce qu'il est raisonnable de maintenir cette cérémonie d'ouverture sur la scène ?
32-16 pour en parler avec les GG, Bruno.
Moi, si c'est le citoyen qui parle, je trouve qu'on se met en danger. Je trouve qu'en plus, moi, ce que je disais hier, et je le redirai tous les jours, mais en fait, si aujourd'hui on le disait, on a le personnel en face de chaque poste qu'on a besoin, on a le personnel de sécurité, on a assez de policiers et tout, mais ça fait quand même des mois qu'on dit qu'il manque du monde, on est prêt à prendre des étudiants pour faire la sécurité, et là d'un seul coup, après ce qui vient de se passer en Russie, on dit c'est peut-être un peu compliqué. Non, c'est compliqué depuis le départ en fait. Et je comprends pas que moi ces JO ne soient pas mieux préparés en amont et que aujourd'hui on est quel jour là, on est le 26.
Ouais.
26 mars, tout soit carré, et qu'on te dise, après ce qui vient de se passer à Moscou, on sera obligé d'embaucher plus. Mais en fait, aujourd'hui, déjà, pour embaucher, pour être au chiffre qu'on devrait avoir besoin, juste en temps normal, on les a pas. Moi, je trouve que là, c'est un truc de fou. Et je parlerai pas de M. Soberzin, parce que, personnellement, je
trouve que c'est on annule tout. Est-ce qu'après le Bataclan, on a annulé tous les concerts?
Alors moi, je voulais juste te dire un truc, c'est que je suis venu chez vous en juin 2016, la première fois, et vous m'aviez parlé, Charles était là, et vous m'aviez dit l'euro, vous allez bloquer l'euro avec votre grève des trains. Et moi, je vous avais dit, 6 mois après un attentat, on maintient un euro. Ok.
Ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé parce qu'à un moment donné,
il y a eu l'attentat de Nice juste après.
Voilà, on est d'accord.
Oui, mais il y a eu l'euro, c'est bien passé.
Ouais, il s'est bien passé parce que
il n'a pas été visé par des attaques terroristes.
Parce qu'à ce moment-là, on avait relevé le niveau et qu'à l'époque.
Mais là, c'est ce qu'on fait.
Bah oui, mais sauf qu'aujourd'hui on a un vrai trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'aujourd'hui t'as un problème d'effectif. Ouais. Tous les gens qui sont dans la sécurité te le diront en fait. Donc moi je veux bien, mais voilà.
Charles, est-ce qu'on a raison de maintenir, pour justement ne pas céder face à la peur, de maintenir cette cérémonie d'envergure ?
Moi je pense que oui. Ces JO auront vraiment valeur de test. Ça va vraiment être l'occasion de voir si on est capable encore en France d'organiser un grand événement international. Ou si en fait on est définitivement trop à la ramasse et même ça on ne sait plus le faire. C'est quand même intéressant de le voir. Est-ce qu'on ferait moins bien qu'un pays comme le Qatar ou est-ce qu'on arrive quand même encore à faire au moins aussi bien? Donc moi j'espère quand même si je pense que dans l'absolu ça va être un événement abominable, je pense qu'on va réussir à le faire, je l'espère en tout cas quand même. Je pense qu'on réussira aussi à garantir la sécurité. Paris est quand même une ville extrêmement vidéosurveillée, on a quand même un antiterrorisme a priori performant parce qu'on nous explique que beaucoup d'attentats sont déjoués. Alors malheureusement, il y en a certains qui sont commis quand même, ouais. Mais on a quand même a priori des gens au taquet sur le sujet. Je pense qu'on a les moyens logistiques d'assurer cette sécurité.
Donc tu n'es pas plus inquiet que ça.
Non, et je vais vous dire par ailleurs, même si je ne nie pas du tout la menace terroriste, je suis convaincu qu'elle existe. Moi, j'ai 34 ans. Je pense que ça fait 34 ans que j'entends que la menace terroriste est très élevée. Et que je vois
parce
des,
que c'est depuis 95.
Des ministres défiler à la télé pour nous GIA, expliquer avec un air martial que la menace terroriste est très élevée. Et sans vouloir tenir des propos polémiques, je pense que ces gens ne tirent pas les conséquences de leurs constatations. Et je pense qu'en réalité, on pourrait quand même faire plus contre cette menace terroriste et que un certain politiquement correct fait qu'on reste assez mou en réalité sur le sujet.
Aurélie Cousinet, inquiète ou pas? Il faut la maintenir ou pas?
Oui, on peut maintenir, mais on déjoue des attentats, mais pas avec une énorme foule. Moi, ce qui m'inquiète plutôt, c'est la foule. S'il y a vraiment foule, hein, parce que a priori...
Il y aura des dizaines de milliers de personnes.
C'est centaines de milliers, parce que c'est 320 000 personnes attendues. Hein. C'était 600 000, maintenant c'est 320 000.
Ouais, mais bon,
Toutes les places ont été vendues hein, sur le Keba, donc c'est 100 000. Il y a déjà 100 000 personnes assurées. Et à mon avis, tu verras, les places vont être, les invitations vont être distribuées, les gens viendront. Hein.
Il y aura des fous, il y aura des
politiques. Ça va être l'événement.
On aura de
ils arrivent toujours à passer, ils sont soit déjà de l'intérieur, ils arrivent toujours à passer.
Fouille, je suis pas sûr qu'on arrivera à fouiller tout le monde.
Dans tous les cas, il y a toujours une personne qui est de l'intérieur. Donc oui, c'est vrai qu'il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles.
Mais d'ailleurs, ce que disent les services de renseignement, ce qui les inquiète le plus, c'est l'acte individuel, sont les jeunes qui échappent au radar, qui se radicalisent aussi sur Internet,
la menace
et qui ensuite passent à l'action. C'est-à-dire un peu ce qu'on a vu contre Dominique Bernard, c'est ce qu'on a vu sur le pont Bir Hakeim, c'est ce qu'on a vu contre Nice aussi.
Le mec
qui a pris son camion et qui a foncé dans la foule le 14 juillet.
Le matin. Et ça, dans n'importe quel événement, tu peux l'avoir. C'est-à-dire que cette menace intérieure, c'est-à-dire des gens chez nous qui se radicalisent et qui... tu peux l'avoir pour n'importe quel événement. Tu peux l'avoir, mais quand tu prends le train Gare du Nord ou Gare du Lyon,
oui, c'est l'attentat d'Italis.
Tu peux avoir quelqu'un dans le métro. D'ailleurs, on le voit, hein, ça peut arriver sur un pont, c'est arrivé à la gare Saint-Charles.
Enfin, moi, je vais juste te dire un truc.
Cette menace, elle existe tout le temps.
Ta cérémonie, là.
C'est pas ma cérémonie.
C'est un chiffon rouge. C'est un chiffon rouge que tu peux agiter devant tous ceux dans le monde qui voudraient faire un petit peu de tort à la France. Tu fais comme ça. Et puis surtout, l'impréparation qu'on est en train de subir depuis quelques mois. Et puis moi, je te dis juste, tu fais ça, comme ça. Regarde, parce que Poutine, tout grand Poutine qu'il est, il n'a pas vu venir qu'à un moment donné, ça allait arriver sur son côté. Alors qu'en face, il est en train de foutre le feu en Ukraine.
Non, mais moi, j'ai confiance en Amélie Oudéa-Castéra. Je ne comprends pas que vous soyez inquiet. Elle est en charge des JO.
C'est dommage.
Non, elle est en charge des sports. Elle n'est pas en charge de la sécurité du pays.
Ouais. C'est
Gérald Darmanin.
C'est dommage.
Et c'est Laurent Nunez qui s'en
Nous sommes avec Gérald, qui nous appelle de l'Hérault. Gérald, bonjour, commercial. Bienvenue.
Bonjour, merci à vous.
Alors finalement, est-ce que vous vous dites non là, il faut réduire la voilure ou comme le disait Charles, de toute façon le terrorisme est là, on vit avec et point barre.
Mais je suis d'accord avec Charles à ce niveau, évidemment, de toute façon, c'est comme le virus du Covid, il faut apprendre à vivre avec, comme on nous a dit. Et aujourd'hui, avec la peur des attentats, les Français ont vivre avec et oublient plus ou moins aujourd'hui sur le gré de leur vie, si je puis dire. Donc oui, il faut maintenir évidemment cette cérémonie. Il faut pas oublier qu'à parmi les plus de 300 000 personnes qui seront là, 220 000, je crois, seront choisies. Oui. Par l'État, il me semble. Donc bon, voilà.
Oui, par la mairie. Enfin, ce sont des invitations. Alors, on ne sait pas exactement d'ailleurs comment vont être distribuées ces invitations pour l'instant.
Oui, voilà. Donc après, heureusement que ça ne sera pas annulé. Sinon, on serait la risée du monde à ce niveau-là. Et puis, quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin forcément des JO pour pouvoir être victime des attentats, si je puis dire, comme vous l'avez dit, ça peut se passer n'importe où et ça peut se passer aussi dans nos métros.
Vous êtes inquiet ou pas ?
Non, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Je pense encore une fois que évidemment le gouvernement profite de ça pour encore jouer sur la peur et maintenir en fait ce climat qui existe depuis à peu près de 2 ans aujourd'hui, voire plus maintenant, hein, depuis le Covid, j'ai envie de dire même.
Oui, mais en plus, sincèrement, le principe du terrorisme, c'est de faire peur et d'empêcher les gens de vivre, en fait, et de créer un climat anxiogène. Si on annule tout, il faut bien sûr pas être complètement inconscient, mais si on donne raison finalement à ces terroristes en disant la cérémonie d'ouverture, on va finalement aller au Stade de France, finalement ils ont gagné en quelque sorte.
Mais
ils ont changé notre mode de vie.
Tu pourrais être convaincu.
Il y a des solutions pour combattre le terrorisme. C'est déjà, si on regarde d'une manière, c'est respecter les OQTF, fermer en fait toute l'immigration qu'il peut y avoir dans notre pays et aussi arrêter les accords de Schengen. Là, déjà, on aura fait quelque chose pour pouvoir essayer de freiner les attentats qui peuvent arriver dans notre pays.
Ce sont des. Enfin, oui, j'entends. Enfin, moi, les trois qu'on tirait dans le Bataclan, c'était trois Français qui étaient nés en France et qui avaient travaillé à un ou un, qui avaient travaillé à un TP. Donc, si vous voulez après fermer vos frontières, vous empêcherez pas.
Il y a beaucoup d'islamistes, en l'occurrence. Il y a une menace islamique à la RATP. Donc, forcément, il y en a un qui a travaillé à la RATP, mais c'est à nous de nous saisir aussi de ça.
Ouais, mais tu vois,
Charles qui dérive, ça y est. Moi, je trouve que la plus grande menace de la RATP, c'est plutôt Pécresse, on en reparlera tout à l'heure.
Oui, ça peut être, mais c'est peut-être une menace conjointe, mais on sait qu'il y a des cas de radicalisation.
Je remercie Gérald. Gérald dit on vit avec. Et moi, je pose une question un peu perso. Quand tu as su que tu venais à Paris, est-ce que, vu la menace, ça t'a mis un peu de crainte ou pas?
Non, pas du tout, non.
Non?
Non. C'était juste le bordel.
Ouais.
Je me suis dit, je vais dans une fosse au lion, quoi. C'était plutôt ça. Mais peur, non. Après, il suffit de faire attention. Tu regardes partout autour de toi.
C'est ce que tu fais au quotidien? Tu as une espèce de vigilance?
Oui, je regarde. Enfin, moi, je suis très observatrice et puis j'aime bien regarder autour de moi. Je ne suis pas, comme certains, à marcher droit dans mon téléphone. C'est regarder autour de soi. Regarder ce qui nous entoure. C'est la base, à l'origine déjà.
Ah ben on va continuer d'en discuter. Est-ce que, comme Gérald, là aujourd'hui, vous dites, de toute façon, la menace, elle est là. On fait avec, ou il y a quand même un petit degré d'inquiétude qui est monté. Est-ce qu'il faut revoir la cérémonie des Jeux Olympiques, la mettre dans un stade, la maintenir telle qu'elle? 32-16 pour en discuter avec les GG.
RMC. 9h30. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec vous comme tous les jours au 32-16. Les grandes gueules qui, n'oubliez pas, peuvent vous faire gagner 50 000 euros. Le coffre RMC est de retour. Vous savez comment ça se passe, le coffre RMC, il faut l'ouvrir. Et si vous l'ouvrez, à l'intérieur du coffre RMC, vous avez une semaine de vacances dans un des campings Tikayan pour 6 personnes ou bien 50 000 euros. Mais si vous êtes tiré au sort, vous gagnez d'ores et déjà 2500 euros que vous mettez de côté si vous tentez le coffre et les 50 000 euros. Alors, pour cela, il faut s'inscrire dès que vous entendez l'alarme, les amis. Donc, quand vous entendez l'alarme, vous envoyez coffre par SMS au 732-16, coffre par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez soit 2500 euros, soit la semaine de vacances pour 6 chez Tikayan, soit vous gagnez les 50 000 euros. Quoi qu'il en soit, vous repartez avec quelque chose. Donc les copains, à vous de faire.
Oui, je t'écoute.
Tu voulais me dire, parce que tu m'as fait un petit signe, c'est pour ça.
Non, mais j'attendais que tu aies terminé.
Non, mais je pense qu'Olivier,
Emmanuel Macron.
Non, mais Olivier, je pense qu'il est inquiet parce qu'il se demande si Bruno Le Maire s'est pas barré avec la thune hier.
Non, alors on a fait attention.
Ouais, parce
lui-même,
que...
lui-même, Bruno Le Maire a dit qu'il avait envie de jouer au coffre.
En plus, il cherche vraiment de l'argent. Oui,
il cherche de l'argent.
C'est surtout ça, voilà.
On va accueillir Naïm au 32-16. Bonjour Naïm, bienvenue dans les GG, dans les grandes gueules. Naïm, commercial en Seine-Saint-Denis. Bonjour Naïm.
Bonjour l'équipe, bonjour les GG.
Alors, est-ce que ça vous inquiète ou pas la perspective des JO et la menace terroriste?
Alors, pour rien de vous cacher, moi, c'est la première fois que je passe sur la radio, en l'occurrence. Oui. Bon, je vous écoute quotidiennement en allant au travail, étant commercial sur l'Île-de-France.
Oui.
Concrètement, je pense qu'on se fait des fausses peurs. On se fait des fausses peurs, pourquoi? Parce que, habitant Sevran, je vous fais un contexte assez rapidement, habitant Sevran, j'ai vu que depuis l'arrivée, vous savez, je vous fais un petit parenthèse, mais depuis l'arrivée que Macron est arrivé sur Paris, faut savoir que sur Sevran, maintenant, à chaque fois qu'on rentre ou qu'on sort de la ville, on est contrôlé par les CRS. D'accord?
Pardon, vous pouvez circuler librement entre Sevran et Paris, quand même.
Oui, il n'y a pas de souci là-dessus.
Vous êtes contrôlé à chaque fois, quand même.
Oui.
Ouais, non, c'est juste pour gérer les points de deal. Non, il y a pas de souci là-dessus.
Il y en a quelques-uns, paraît-il, du côté
hier,
des Beaux-Dôles.
Hier, Sevran faisait partie des places nettes XXL.
Oui.
Exactement. Et on l'a ressenti avec les embouteillages.
J'imagine, ouais.
On l'a super bien ressenti. Et tant mieux. C'est une très bonne chose. Mais pour revenir sur le JO, qui est quand même le sujet, moi, je pense qu'il faut avoir confiance en notre gouvernement, aux forces de l'ordre. Après, on peut émettre des suppositions. Tout à l'heure, c'est vrai que l'intervention de Gérald m'a fait bondir dans ma voiture, parce que lié attentat au QTF, islamiste, arabe, franchement, il faut arrêter, je pense. Ben voilà, il y a 10% de la
pourtant
population.
Pourtant, c'est lié, pardon, mais attentat au QTF, islamiste, alors arabe, ça, c'est... c'est un peu superflu, mais attentat au QTF islamiste, c'est lié, cher monsieur. Si vous laissez errer non, des... Et... Mais non, mais c'est vrai.
Oui, Charles, tu sais très bien que c'est pas vrai, en fait.
Bah, si ah bon,
vrai.
D'accord, c'est pas
vrai. Bah, il y a les étrangers
non,
radicalisés
mais c'est vrai.
Dans le pays.
Non, mais c'est
d'ailleurs,
vrai.
Ils sont débarrassés.
Mais non, mais les auteurs d'attentats ne sont pas des islamistes. Et d'ailleurs, aucun n'a jamais été visé
c'est
par...
C'est ce que je te dis. L'histoire des occultes, moi, je te le répète. Quand tu parles d'attentats, il y a, malheureusement, il y a différents attentats parce qu'en fait, il y a une espèce de boule de neige derrière. Alain peut en parler aussi. L'attentat Nice n'a rien à voir avec ce qui s'est passé au Bataclan et sur les terrasses. Mais en fait, à un moment donné, on est en train de faire des amalgames. Moi, je voudrais juste vous dire un truc. Moi, je pense que, et moi, je suis d'accord avec Naïm, on peut faire confiance à nos forces de l'ordre. Le problème, c'est que les forces de l'ordre ne se font pas grand parce qu'elles sont pas assez nombreuses. Quand tu parles avec tous ceux qui sont dans les dossiers de terroristes, et moi, j'en parle régulièrement, les gens te disent tous, on a un vrai problème d'effectifs, on a un vrai problème aujourd'hui de moyens. Et quand Montbrial te dit que tout le monde dit au président, arrêtez parce que là, je pense qu'on se met en danger. En fait, si lui, il écoute pas et que lui, dit, bah, moi, ouais, et, comme dit Charles, ça va être un jackpot. C'est si ça marche, bah, tout le monde va dire, putain,
il avait raison. Réagit là-dessus.
Mais par contre, si ça marche pas, moi, je pense que, attention, les yeux.
Emmanuel Macron, qui est en Guyane, il a réagi là-dessus. On lui a posé la question. Il y a une jeune femme qui lui a posé la question sur le risque. Il a dit, le risque zéro n'existe jamais dans la vie.
Bien sûr.
Ce qui est difficile parfois, c'est qu'il y a toujours une part de risque. Alors on fait tout bien sûr pour que ce risque soit le plus limité. Là où Emmanuel Macron a raison et tort, c'est qu'il a raison effectivement, le risque dans la vie, bah oui, il y a pas de risque zéro, n'existe pas. Néanmoins, lui, il est plus protégé que les autres. C'est-à-dire que si jamais il y a quand même un attentat, Emmanuel Macron, il a un service de sécurité maximal. Je crois qu'il s'est encore renforcé. Le citoyen lambda qui sera à la cérémonie, il sera pas aussi bien protégé.
Ah, yes, c'est là qu'il faut être.
Et les grands, les athlètes seront sans doute très protégés. Est-ce que les citoyens le seront? Parce que si dans la foule quelqu'un se fait exploser ou tout d'un coup sur un couteau, il y aura pas un cordon de CRS tout de suite.
Mais
devant
Naïm, du coup, vous êtes, parce qu'il va y avoir du monde vers chez vous aussi à Saint-Denis et tout. Dans en Seine-Saint-Denis, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous avez limité vos déplacements ou pas?
En fait, moi, je suis de nature optimiste. Donc, pour moi, il y a rien d'extraordinaire. On va accueillir une grande compétition, donc en l'occurrence les JO. On a super bien géré les différents derniers événements sportifs.
Ouais, la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, c'est très bien géré, c'est vrai.
Une exception.
Du monde de rugby,
c'est du monde de rugby. Naïm, attention au trou de mémoire quand même.
Non, pas du tout. Le problème de nous Français, et je fais exprès de dire nous Français, le problème de nous Français, c'est qu'on parle toujours des trains qui sont en retard et jamais des trains qui sont à l'heure.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est une erreur qu'on fait toujours. Mmh. On est toujours là à se plaindre. On est quand même une grande démocratie. On est un grand pays. On est reconnu dans le monde. Notre patrimoine culturel, culinaire est reconnu dans le monde. Moi, quand je voyage, j'ai l'occasion de voyager en tant que commercial dans le monde. Et je vous assure que nous, Français, on est reconnus dans le monde. Alors, faut juste savoir une chose. Paris a cette dimension dans le monde où les gens... Moi, je le lisais tout à l'heure sur France Info, comme quoi il y avait des bénévoles, un bénévole guatémaltèque qui était dégoûté d'aller à Châteauroux pour les épreuves.
Ça, on peut le comprendre. Imaginez, en plus, il y a Louis Gerbier là-bas. Oh, donc, t'imagines.
Je croyais qu'il n'y avait plus rien à Châteauroux.
Double peine.
T'imagines le trajet d'une vie, tu es bénévole guatémaltèque.
Tu penses que tu vas te retrouver à Paris?
À Châteauroux.
Oh putain.
Un trajet de vie, ça, quand même.
Tu penses que le mec pourrait faire un film?
Ça, il y a 500 ans, ça n'arrivait pas.
Le type, il pensait sécuriser le Trocadéro, il va se retrouver à Châteauroux.
Sécuriser la place à Châteauroux.
Allez-y, finissez, Naïm, pardon.
Le pauvre, non, je vous en prie.
On plaisante, hein, bien sûr, on embrasse tous les habitants de Châteauroux.
Alors attendez, Naïm, parce que on va écouter Stéphanie.
On salue les guatémaltèques de Châteauroux.
Qui nous appelle de Haute-Vienne. Bonjour, Stéphanie.
Bonjour, salut les GG.
Alors, et vous, dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors, c'est vrai que ça s'est passé à Moscou. Le Premier ministre nous dit qu'on a quand même déjoué des attentats depuis le début de l'année. Et on a la cérémonie des JO qui arrive. Vous dites, c'est flippant ou pas?
Alors, moi, personnellement, je préférerais, s'il y a un risque d'attentat, je préférerais être dans un lieu ouvert, en extérieur, ouais, que dans un lieu clos. C'est-à-dire que, par exemple, Estelle Denis, elle est à fond sur le Stade de France. Pour elle, ça va être déplacé au Stade de France. Mais non, moi, j'aurais peur. Enfin, on peut pas s'enfuir. Il y a des gradins, il y a des barrières, c'est fermé. C'est...
Oui, mais on peut sécuriser davantage. On peut faire des fouilles. Au Stade de France, c'est quand même plus simple à sécuriser que 6 kilomètres de berges.
Oui, sauf que Moscou, c'était en intérieur. Le Bataclan, c'était en intérieur. C'est vrai. Et c'est ce qui fait le plus de victimes. Au
c'est
final.
Vrai. Mais une fois qu'on est à l'intérieur, on est bloqué. Ouais.
Ouais, Nice, c'était à l'extérieur.
Ah ouais.
Nice, c'était à l'extérieur, exact. Mais moi, je me sentirais plus. Et en plus, je me dis un truc qui est peut-être un mauvais raisonnement, mais il va y avoir beaucoup d'autres groupements pendant tous les JO. Là, on sait qu'ils vont mettre le paquet sur la sécurité de la cérémonie d'ouverture. Et comme à chaque fois, comme à Moscou par exemple, les terroristes, ils vont là où,
oui, où
les endroits un peu oubliés, oui, enfin voilà, où oui, les failles raison, ou quoi que ce soit. Donc, c'est, je pense pas que ça soit à la cérémonie d'ouverture où j'aurais le plus de crainte. Ça serait plutôt dans d'autres rassemblements.
Ouais, mais voyez,
Mais Jérôme Poirot, notre spécialiste c'est terrorisme, hier, il disait ça. Il disait en fait. Imaginez, ça sera quand même compliqué pour un des terroristes d'organiser quelque chose à Paris, mais s'ils le font ailleurs qu'à Paris en France, ça aura le même écho. C'est-à-dire que si c'est pendant les JO, on en parlera dans le monde entier.
Tu peux faire
et,
ça.
En revanche, les forces de sécurité, il y en aura sans doute effectivement moins dans d'autres villes, à Châteauroux ailleurs, que le 26 juillet à Paris.
Tu peux faire ça dans un bar où il y a un rassemblement de supporters. Tu vois, là je regardais, le raid se prépare. Alors, il y a 200 hommes du raid qui seront déployés. Et ils se préparent à ce qu'ils appellent l'exercice de la tuerie de masse. Donc, tu vois, il y a toutes les répétitions qui sont faites sciemment. Si jamais il y a un type qui rentre dans la foule, il y a des armes, en disant on fait le plus de victimes possible, ça fait partie des scénarios aussi qui sont envisagés. Et c'est normal, c'est pas pour faire peur aux gens de montrer les images du raid qui s'entraîne. Au contraire, moi je trouve ça plutôt rassurant de voir que l'on passe en revue tous les exercices et tous les scénarios catastrophes possibles et imaginables.
Mais en fait, pour en revenir à ce que disait Stéphanie, moi je vois, depuis qu'ils ont refait par exemple l'Accor Arena, moi je vais dans toutes les salles de concert, malgré mon syndrome post-traumatique malgré
l'Accor Arena, c'est à Bercy.
Ouais, c'est à Bercy. Et tu vois, en fait, maintenant, Bercy, quand j'y vais, je suis hyper rassuré parce que, pour rentrer dans Bercy, c'est relou. Tu sais, t'as toutes les barrières et tout. Donc, je me dis, tu vois, moi, comment je réfléchis quand je vais dans une salle de concert. Je me dis, bon, si les mecs, ils arrivent, le temps qu'ils fassent déjà le truc et tout, s'ils tirent avant, j'entendrai avant. Donc, je pourrais me planquer, me barrer plus tôt, tu vois. Parce qu'au Bataclan, effectivement.
Regarde comment ils sont rentrés à Moscou.
Ah oui.
Regarde
personne. C'est pas la même sécurisation qu'à Bercy.
Parce que moi, tu vois, quand j'étais au Bataclan, moi, j'ai entendu tirer derrière. Moi, je sentais arriver, tu vois, en fait, c'est ça. Alors qu'à Bercy, putain, je peux te garantir, avant qu'ils arrivent, tu sais, il y aura du temps. Et en plus, c'est des grands couloirs. Donc, je me dis, un concert
Bercy. Mais après, les armes peuvent être aussi de l'intérieur. C'est le truc, c'est que vous pensez que ça arrive toujours de l'extérieur, mais t'en as. Ils sont aussi dedans. C'est aussi dedans. Oui, c'est au lieu qu'ils arrivent, t'es terroriste.
On n'est pas au Texas non plus, tu sais.
Non, mais ça peut être aussi dedans.
Une complicité, quoi.
Il y a de la complicité, c'est. Voilà, ça s'est déjà vu.
Nous sommes avec.
C'est pas toujours de l'extérieur.
Il y a Bruno Pomard qui était avec nous, qui voulait intervenir, notre ancien instructeur du raid. Bonjour Bruno.
Salut Alain, salut Olivier.
Oui, tu voulais intervenir, pourquoi? Dis-moi, parce que tu nous as appelé alors, vas-y.
Oui, ben, tout simplement pour vous dire qu'il faut se rassurer. Je vois que Charles comme Bruno sont optimistes et ça fait plaisir de le voir. Non, encore une fois, on est capable de répondre à ce type d'événement. Et pour être plus précis dans ce que tu disais Alain tout à l'heure par rapport aux forces d'intervention comme le RAID, il y a le RAID, le GIGN et la BRI Paris et nationale qui est mobilisée. Il y aura près de 600 policiers des groupes d'intervention qui seront mobilisés sur Paris au sein d'un PC. C'est la première fois que ça se fait, pour être capable d'intervenir avec les méthodes qu'on connaît, parce que moi je les ai travaillées il y a très longtemps, mais c'est toujours les mêmes, elles ont évolué. Je peux vous assurer qu'il y a vraiment un gros travail de sécurisation qui a été fait, et de rajouter encore, le renseignement étant la chose la plus importante, il faut savoir que la DGSI a été augmentée de plusieurs milliers d'effectifs, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de travail qui a été fait pour...
Oui mais Bruno, on imagine effectivement que ce travail fait empêchera sans doute d'intervenir pendant la cérémonie d'ouverture, mais on peut imaginer un attentat avant, histoire de traumatiser tout le monde quelques jours avant le début des JO et de relancer le débat, est-ce qu'il faut maintenir tout ça? Et d'ailleurs, à mon avis, s'il y en a un avant, la cérémonie d'ouverture pourrait être annulée. Et on parle d'un plan D, c'est-à-dire que ça serait au Trocadéro, sans public, uniquement avec les athlètes, pour la télé. Ça, c'est le. Au début, on nous expliquait qu'il n'y a pas de plan A, maintenant, il y a un plan D. Et puis, ça peut être aussi ailleurs en France, avec finalement quand même un écho important, puisque à ce moment-là, toutes les caméras du monde entier seront braquées sur la France pendant les JO.
Tu as raison Olivier, mais les politiques et je crois que le monde entier maintenant est comment dire sensibilisé au fait que le terrorisme peut taper à n'importe quel moment.
Mais pas toujours là où on l'attend.
Mais oui, mais le problème.
Regardez en Russie, je pense pas que Poutine s'attendait à une attaque djihadiste.
Oui, mais non, et d'ailleurs il avait été averti. Il avait été averti par les Américains.
Il a pas cru.
Mais Bruno, il a cru que les Américains lui faisaient de l'intox.
Mais voilà. Bruno, as-tu entendu Aurélie ou que ce soit l'un de nos auditeurs qui disait ouais mais c'est aussi à chacun à se prendre en charge, à regarder.
Oui, à regarder, à surveiller.
Est-ce qu'il faut compter là-dessus aussi?
Oui, absolument.
La vigilance des citoyens.
Ça s'appelle la vigilance citoyenne.
Voilà, c'est ça.
Tu sais que ça fait partie du concept de de la lutte contre le terrorisme. Ne comptons pas que sur nos forces de l'ordre. Évidemment, elles sont là et en nombre, mais chaque citoyen doit être responsable aussi et observer, regarder ce qui se passe autour de soi. C'est participer à la lutte antiterroriste, quelque part, à la lutte contre la délinquance. Donc, je crois que tout le monde doit se mobiliser. Il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Alors, c'est vrai que cette cérémonie, vous avez raison, elle est exceptionnelle parce que dans tous les Jeux Olympiques, moi, j'ai connu Albertville. On était cloîtrés dans un stade avec les gars du raid tout autour, etc. Effectivement, c'est plus facile à maîtriser la scène avec ses kilomètres et ces centaines de milliers de personnes présentes. Évidemment, ça va être plus compliqué, mais encore une fois, le dispositif qui est mis en place par nos forces de l'ordre est quand même important et à mon sens, sera efficace.
Merci Bruno, merci d'avoir été avec nous. Bonne journée Bruno, à bientôt. Mais je ne suis pas d'accord avec toi sur un point, mon cher Poncé.
T'as tort.
Peut-être, mais parce que tu disais, ouais, Bercy, quand on rentre à l'accord à RNA, quand t'as 14 000 personnes qui arrivent, on a les barrières qui sont mises pour faire les chemins des spectateurs. Mais quand tout le monde est rentré, et c'est ce qui s'est passé au Crocus City Hall, quand tout le monde est rentré, les barrières, on les enlève. Quand tu vois les gars comment ils rentrent, t'as plus le dispositif de filtrage. Ils arrivent, ils ont tiré sur les vitres, ils sont rentrés et à l'intérieur, t'as juste
tuer des gens quand ils sont enfermés.
Et après, tu rentres dehors. Parce que je voulais dire. Tu comprends. Une fois que tout le monde est rentré, les barrières, tu les enlèves de façon à ce qu'ensuite, en plus, ça puisse sortir en masse. Donc, si tu veux rentrer, tu rentres, garçon.
Ce que je veux te dire, c'est que moi, avec mon hypervigilance, en fait, le fait que Bercy, quand tu rentres, il y a des couloirs partout, tu montes un escalator, machin et tout, en fait, ça me rassure plus que les salles de concert où t'arrives, la porte, elle est là et derrière, c'est direct la scène. J'ai connu ça au Bataclan et quand j'étais rentré, je m'étais dit. Aujourd'hui, c'est cool, quoi. Tu vois, j'ai même pas été fouillé, j'ai montré ma place, je suis rentré en fait.
Moi, je pense que la plupart des gens auraient plus peur de se mettre dans une pièce enfermée. Parce que les gens.
Toi, tu aurais davantage peur dans un stade, quoi, en fait, c'est ça.
Oui, parce que tu vas t'échapper, tu vas quoi? Tu vas marcher sur les gens, tu vas les bousculer, tu vas en renverser, tu vas. C'est la panique, donc tu fais pas ce que tu fais. Tandis que là, t'es dehors, t'as plus de facilité dehors quand même à partir.
Enfin, pardon, là, on sera bloqué, ça sera pas dehors, tu pourras pas venir comme ça, il y aura des barrières.
Oui, mais. Je veux dire, c'est quand même, c'est aéré. Enfin, il y a plus de visibilité même.
Que dans une salle, c'est sûr.
Il y aura plus de visibilité même par les militaires ou la gendarmerie, par les forces de l'ordre.
On a posé la question cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'il faut la maintenir telle quelle avec la menace attentat? Voir un peu quelle est votre perception, les amis.
Qu'est-ce que ça nous dit?
C'est un oui 56-44. Donc ça commence. Les gens sont assez partagés.
C'est un peu comme avec Inès Reg et Natacha.
Allez, dans un instant, le on s'en fout,
La France est fracturée.
Et ensuite, à 10h, le clash de Danse avec les Stars, Natacha Saint-Pierre, Inès Reg, la France est fracturée. Il y a une bonne partie de la France qui s'en fout, peut-être aussi, mais d'autres.
Non,
ça fait des millions de téléspectateurs quand même, Danse avec les Stars.
Oui, mais alors c'est marrant parce qu'ils n'en parlent pas pendant l'émission. Dans leur émission, TF1 n'en parle pas, alors que sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme et tout le monde a un avis sur ce clash.
Allez, à tout de suite avec les GG.
RMC. 9h30. Les Grandes Gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story, les GG avec une bande de 7 pour discuter, pour débattre. Les Grandes Gueules avec aujourd'hui Charles Consigny, avocat, Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste. Nous sommes avec une auditrice des GG, Aurélie, mère au foyer en Gironde. Aurélie qui s'occupe de sa marmaille.
Ouais.
6 enfants, avec son mari qui est artisan, électricien. Ma chère Aurélie, tu vas rester avec nous jusqu'à midi. Tu sais qu'à cette heure-ci, on retrouve Anaïs pour le on s'en fout pas.
RMC, les Grandes Gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Le conseil d'abord de Valérie Pécresse aux Parisiens et aux visiteurs pendant les JO. Il ne faudra pas avoir peur de marcher, a déclaré la présidente de la région Île-de-France lors d'un point précis. Alors, est-ce qu'on s'en fout ou pas, Aurélie?
On s'en fout.
Charles.
Je vous avoue, je trouve qu'on s'en fout un peu, mais je peux quand même...
Il y a un petit peu.
Bruno.
Non, on s'en fout pas.
Bon, si la circulation des transports en commun sera renforcée de 15% pendant les Jeux, Valérie Pécresse prévient quand même que, je cite, « il faudra enlever aux franciliens leurs automatismes de transport. Nous misons sur l'intelligence collective, comme celle de s'arrêter une station avant, par exemple. C'est bon pour la santé, sans compter qu'un tiers des visiteurs auront entre 25 et 35 ans. Et on espère qu'à cet âge-là, certains peuvent quand même marcher. » Fin de citation. C'est ce que dit Valérie Pécresse. Pourquoi on s'en fout pas? Bruno.
Bah parce que moi je pense réellement, et je vais essayer de rester courtois parce que je pense que c'est pas le lieu, mais je pense que c'est le niveau zéro de la politique en fait. Parce que tu peux pas dire aux gens, sortez une station plus tôt. Son rôle, elle, c'est d'organiser les transports, peu importe la période. Et là, ils sont en train de t'expliquer que c'est l'été. Donc l'été, t'es toujours à un niveau inférieur que de l'offre normale.
Elle le dit, ça.
Donc, et là, ils disent, on va vous mettre la même offre que l'hiver. Mais or que ça fait quand même depuis le Covid. Parce que pendant le Covid, elle a fait n'importe quoi. Il faut rappeler que pendant le Covid, elle a demandé à la RATP SNCF de faire des transports à 100%. Or, il n'y avait personne dedans. Et après, il a fallu qu'elle rembourse une partie des Navigos, donc elle a perdu des ronds. Donc depuis cette époque-là, en plus des travaux, l'offre a baissé. Donc même dans le pire heure de pointe, tu as moins de métro qu'avant le Covid. Ça, c'est une évidence, mais même pendant le Covid d'ailleurs. Donc là, elle est aujourd'hui dit, alors qu'elle doit organiser tout ça. Donc c'est à elle que tu files les ronds pour que ça se passe bien. Les 80 balles du Navigo, c'est elle.
Non mais...
Et en fait, alors qu'elle avait dit déjà qu'elle l'augmenterait pas, faut jamais oublier qui est Pécresse quand même. Moi, j'étais au Césaire. J'étais en face de cette dame.
T'as aimé Césaire?
Non, je sais pas, mais c'est le Césaire, c'est le centre, c'est le comité économique, social, européen, machin et tout. Et elle, j'étais en face d'elle. Et quand elle parlait des transports, c'est une catastrophe.
Non, mais le plus cocasse, c'est que le prix du ticket de métro double cet été. Les gens l'ont peut-être pas bien, mais c'est doublé. Tous les tarifs sont doublés. Donc, les tarifs sont doublés cet été. Pour les franciliens et puis tous les touristes qui viendront. Et en plus, on nous explique qu'on n'aura pas un service optimal et donc il est préférable de marcher à pied. C'est quand même extraordinaire.
Non, mais si tu vas au Stade de France, sors à la station d'avant du Stade de France.
Là, tu ne doubles pas les tarifs. Si le service n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend, tu ne peux pas doubler ticket de métro. Tu ne peux pas jouer sur les deux. Oui. Au début, elle a dit je double les tickets de métro parce que c'est normal, il y aura plus de conducteurs mobilisés puisqu'on veut offrir un service de métro et de train qui est semblable à celui qu'on a toute l'année. Ah, très bien. Mais là, elle nous explique en fait, non, on n'y arrivera pas et donc ça va être saturé qu'il est préférable de marcher. Mais c'est là où on peut pas jouer sur les deux tableaux.
Juste un truc. Sinon, pour ceux qui connaissent, et là, ça sera juste pour les, je pense que c'est les Parisiens qui vont comprendre, mais quand tu veux t'arrêter à la station sur le R1D avant le Stade de France, donc tu t'arrêtes à la station Gare du Nord, Stade de France, tu vas le faire ça à pied parce que si tu arrives au Stade de France, il y aura trop de monde. Elle est folle.
Allez, on continue.
Ok. Et puis qui chez les Verts, les GG, s'étaient engagés à ne plus prendre l'avion.
Marine Tondelier.
Bon, c'est normal que vous trouviez, vous avez la réponse sous les yeux, mais c'est Marine Tondelier, il y a un peu plus d'un an, qui avait tweeté « Je ne prends plus l'avion et je me chauffe à 19 degrés ». Attitude exemplaire de la part de secrétaire nationale des écologistes. Mais depuis, Marine Tondelier, les GG, s'est amourachée d'un arbre. Oui, un arbre censé représenter le combat écolo, mais cet arbre se trouve... En Guyane, elle a posté une vidéo cette semaine sur ses réseaux, depuis la Guyane donc, devant ce magnifique arbre. Et Marine Tondelier s'engage même à aller vérifier la pousse de cet arbre tous les ans. Bilan carbone de cet aller-retour Paris-Cayenne-Paris. Alors sur X, certains ont fait le calcul, 2,6 tonnes de CO2. Marine Tondelier qui finalement...
Elle n'a pas pris de bateau.
L'exemple. Non, elle n'a pas pris le bateau. En revanche, 2,6 tonnes de CO2, ça me paraît
fou. Donc tous les ans, elle va en Guyane voir pousser l'arbre.
Elle va aller voir, elle s'est engagée.
Et elle nous a dit qu'elle ne prenait plus l'avion.
D'accord.
Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
On ne s'en fout pas complètement.
Oh, bah,
t'es pas très motivé, Charles.
Non, mais parce que...
Bruno, on s'en fout pas.
Tellement habituel.
Aurélie,
on s'en fout pas.
Charles.
Non, mais il s'en fout.
Non, je m'en fous pas. Non, mais si tu veux, pourquoi je dis ça, c'est que ça ne me surprend pas, ce comportement. Je pense que les Verts sont des Khmers rouges et que en réalité leur soi-disant engagement écolo n'est qu'une manière de faire passer leur volonté d'instaurer un régime d'interdiction. Je pense que ce qu'a dit par exemple Najat Vallaud-Belkacem sur la consommation.
Elle n'est pas écolo.
Oui, mais au nom de l'écologie, elle nous a expliqué que pour l'écologie, il fallait
pour le bien des enfants aussi.
Et pour le bien des enfants, moins aller sur Internet, etc. Donc je pense que ça n'est pas étonnant et je crois par ailleurs que il ne faut pas qu'on rentre dans une logique. Autant je suis pour la transition écologique et le fait de tout reparamétrer à l'aune de l'écologie, ça me paraît nécessaire, mais ne pas aller vers des interdits, vers simplement une espèce de slow life qui, à mon avis, ne changera pas grand-chose au problème.
Aurélie.
Et on s'en fout pas parce que nous, on nous dit de nous serrer la ceinture, de faire attention, de consommer moins, et eux, ils prennent un avion pour un arbre. Pour un arbre. Je répète, un arbre, quand même. Faut être perché. Non, mais à un moment donné, les écolos, moi je vous invite à vivre comme la maison de la prairie, par l'ingalls, sans machine à laver, tout ça, après vous pourrez donner des leçons. Vous abandonnez aussi les téléphones et tout ce qui va avec. parce qu'il y en a marre, ils nous donnent des leçons.
Elle avait dit qu'elle prenait plus l'avion.
Non, mais ils nous donnent des leçons. Et puis, machine à laver, électricité, voiture, déplacement avec 10 bagnoles. Et ça ose te donner des leçons. Et ça va en Guyane pour un arbre.
Pourquoi cet arbre?
À un moment donné,
est-ce qu'elle est comme Francis Lalanne? Cet arbre, elle aurait pu le planter ailleurs qu'en Guyane.
Est-ce qu'elle est comme Francis Lalanne qui faisait l'amour avec des arbres? Rappelez-vous, Francis Lalanne, il était toujours.
Oui, mais on veut pas
ça lui a pas réussi.
Elle avait qu'à planter un arbre dans son jardin et puis voilà.
Allez hop, on continue.
La grande gueule du jour, les GG, c'est le maire d'Orléans, un maire en colère car il voit arriver dans sa ville ces derniers mois plusieurs centaines de migrants venus de Paris. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Aurélie?
On s'en fout pas.
Charles?
On s'en fout pas.
Bruno?
On s'en fout pas.
Ce que dit Serge Grouard, en fait, l'édile du Loiret, c'est que ces migrants sont en fait expulsés de la capitale en vue des Jeux Olympiques sans que ses équipes municipales ne soient averties. À peu près toutes les trois semaines, nous avons un car qui vient de Paris affrété par les services de l'État, dit-il. Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline du crack. Voilà ce que dénonce le maire d'Orléans. Pourquoi on s'en fout pas, Aurélie?
On s'en fout pas. Le maire, il a totalement raison. Il va les mettre où? Qui c'est qui va s'en occuper? Qui va payer? Voilà, ils arrivent dans on les met comme ça. C'est allez, débrouillez-vous. On ne sait pas où les mettre. On vous les jette quoi. Parce que Paris, on veut que ça soit propre, bien pendant les JO. Alors que ben non, débrouillez-vous Paris.
Il faut les expulser à ce moment-là.
Ben voilà, qu'ils repartent d'où ils viennent. Nous, on n'a pas. C'est comme la France. C'est comme une table familiale. Quand il n'y a pas assez pour tout le monde, eh ben on arrête de on peut pas donner.
Qu'on n'a jamais jeté autant de bouffe, donc tu dois avoir assez de bouffe sur ta table pour faire.
Moi, je suis désolée, non, on trime comme des cons toute l'année. Et puis, grassement, l'URSSAF. Non, mais même, je suis désolée, moi.
La France, elle jette de la bouffe
mais
tous les jours.
C'est tout le monde, mais c'est tous les Français.
Dans les poubelles des supermarchés. Donc, à un moment donné, moi, j'entends ce que tu dis. Chez toi, peut-être que tu as passé à bouffer. Mais je pense que nous, les Français, dans la gabegie qu'on a tous les jours, et que l'État français fait, je pense qu'il y a assez pour nourrir des gens. Les gens, ils viennent ici, ils ont fui la guerre, ils ont fui le malheur.
Non, pas la plupart, il n'y a pas de guerre.
Non, mais arrête-toi. Voir. Moi, je vais te dire un truc. Va voir la CIMAD. Moi, j'ai été voir la CIMAD il y a encore pas longtemps. Va voir les profils qu'ils ont devant eux. Tous les jours, on les jette. Tous les jours, on leur déchire les tentes qu'on leur offre. On leur empêche d'avoir à manger. On les envoie maintenant à Orléans. Et tout ça en disant, c'est ça l'humanité. Allez-y.
Charles.
Ouais, ça montre bien qu'on les accueille mal. Donc, ça veut dire
qu'on les accueille mal.
Ouais, donc, ça veut dire.
Non, mais il y a surtout des demandes d'asile en cours parmi ces gens-là.
Oui, moi, je pense que la question migratoire, elle est malheureusement très, très complexe. Et très très dur sur le plan humain. On voit bien que ces gens-là, ils viennent pas simplement pour toucher je ne sais quelle allocation ou bénéficier de je ne sais quelle trois pièces cuisine qu'on leur mettrait immédiatement à disposition dès leur arrivée avec un pass Navigo et un abonnement à France Télévisions. Je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Mais je pense aussi qu'on est dans une espèce d'impensé politique et qu'on refuse en même temps d'être ferme, en fait. C'est-à-dire que parce qu'on sait qu'ils sont dans une situation difficile, qu'ils viennent d'endroits difficiles, on se refuse à expulser ceux qui peuvent ou doivent l'être. Et finalement, on laisse des gens errer dans la rue. Et quand on ne sait plus quoi en faire, quand on a un événement,
on a 50 000 euros à faire gagner. Les amis, c'est le moment, vous avez entendu l'alarme coffre, c'est le moment, vous avez 5 minutes. C'est le moment d'envoyer coffre par SMS au 732-16, coffre par SMS au 732-16. Vous vous inscrivez, peut-être que vendredi, vous serez tiré au sort. Vendredi, si vous êtes avec nous dans les GG, vous avez 2500 euros de gagné. Si vous les remettez en jeu, eh bien, c'est la semaine de vacances pour 6 dans un des campings Tikayan ou les 50 000
euros. Orléans.
Allez, vous envoyez coffre par SMS au 732-16. À vous de jouer, à vous de gagner.